VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 13h à Bujumbura, 11h en temps universel au Burundi. Enlèvement hier à Bujumbura de Léopold Abarugira, un cadre du parti burundais d'opposition Union pour la paix et le développement UPD. Sa famille accuse le pouvoir burundais et rappelle que d'autres dirigeants du parti avaient par le passé été enlevés et retrouvés morts. Le frère de l'opposant parfait Abarugira témoigne.
Il était avec sa femme, dit Tonda Liberat, et il y avait trois hommes avec un qui a porté un fusil. Alors on l'a mis dans une voiture qui n'avait pas de plaque. C'était vraiment horrible. Alors comme ça se passe, on cherche toujours des gens pour aider. Mais jusqu'ici, à l'heure où je vous parle, il n'y a rien comme information que nous possédons. Sa femme est en train de tout faire pour avoir les traces de cet enlèvement. Sinon, nous, comme nous sommes très loin, c'est juste pour dire à quiconque qui peut aider pour voir s'il y a quelque chose qui peut se passer dans le bon sens.
Parfait, Abarugira, frère de l'opposant Léopold Abarugira. En Ouganda, les législateurs du parti du président Yoweri Museveni ont décidé hier de travailler sur un projet de loi visant à supprimer la limite d'âge dans la constitution du pays. Cette mesure devrait permettre au chef de l'État ougandais de prétendre à un autre mandat en violation de la constitution. John Lindon.
La constitution actuelle en Ouganda interdit à toute personne âgée de plus de 75 ans de se porter candidat à une élection présidentielle. Museveni, qui est âgé de 73 ans, dirige le pays depuis plus de trois décennies. Les prochaines élections sont prévues en 2021. Riche en pétrole, l'Ouganda est un fidèle allié de l'Occident et reçoit une aide financière substantielle, notamment en partie parce que le pays envoie des troupes en Somalie dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'Union africaine. À son arrivée au pouvoir, Museveni était adulé. Il avait réussi à rétablir la stabilité dans le pays après le règne de deux dictateurs meurtriers largement connus pour la torture et les exécutions extrajudiciaires. Il avait aussi pu mettre fin à une insurrection brutale connue pour les mutilations des civils et des enlèvements d'enfants. Mais au fil des années, les critiques se sont accumulées. L'opposition politique est presque inexistante, la corruption s'est généralisée et le pays jouit d'une très mauvaise réputation en matière de respect des droits de l'homme. Dès l'avis de plusieurs observateurs internationaux, l'élection présidentielle de l'année dernière était tout sauf transparente. Pour l'heure, Yoweri Museveni ne s'est pas encore officiellement prononcé sur une possible candidature à la prochaine présidentielle.
En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a remanié hier soir son gouvernement, une équipe de 34 membres, dont 5 femmes, sur place à Bangui. Retrouvons notre correspondant Freeman Sipila.
Le président Faustin Archange Touadéra avait déjà annoncé le remaniement de son gouvernement en août dernier à l'occasion de la fête d'indépendance. De 21 membres depuis avril 2016, l'équipe compte désormais 34 ministres avec de nouveaux départements. 3 sorties seulement pour 16 nouveaux entrants. Simplice Mathieu Sarandi maintient son fauteuil de chef du gouvernement. Marie-Noël Kouyara reprend les commandes du ministère de la Défense, poste qu'elle avait déjà occupé de 2015 à 2016 pendant la transition politique. Elle succède à Joseph Yakété, beaucoup critiqué pour sa lenteur dans l'opérationnalisation de l'armée nationale. Gontran Djounou Abba, ministre sous le régime Bozizé, puis Séléka, occupe le portefeuille du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques. Un gouvernement regroupant alliés du chef de l'État, groupes armés, partis politiques et sociétés civiles. Les femmes ont une faible représentativité. 5 seulement y ont fait leur entrée contre 3 dans l'ancien Freeman Sipila Bangui, VOA Afrique.
Le franc CFA, à l'origine des francs des colonies françaises, a changé de nom plusieurs fois depuis sa création il y a plus de 70 ans. Après les indépendances, plusieurs chefs d'État africains ont tenté de rompre sans succès ou très difficilement avec la zone franc. Cette monnaie qui regroupe 14 pays africains, dont 8 en Afrique de l'Ouest. Le franc CFA est revenu au devant de l'actualité après sa remise en cause par beaucoup d'intellectuels africains. Le point avec Idriss Fall, notre envoyé spécial à Dakar.
Le débat est relancé Depuis l'expulsion de Kémi Séba, ce franco-béninois a osé brûler un billet de 5000 francs CFA sur une place publique de Dakar au Sénégal. L'économiste Mamadou Dansoro, maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Ce débat ne date pas d'aujourd'hui. Il y a les travaux de Osonde Afana et d'autres dans les années 60-70. Dans ce débat, il faut laisser l'émotionnel de côté. Les pays de l'UEMOA ont le franc CFA en commun. Nous devons aller vers la monnaie unique. Est-ce que les pays de l'UEMOA vont sortir collectivement ou est-ce qu'ils vont partir individuellement?
Il y a des pays qui ont déjà tenté l'expérience et généralement ça n'a pas marché.
Pour moi, ce qui importe, c'est l'économie réelle. C'est vrai que quand on n'a pas sa monnaie, un élément essentiel de la politique économique, si vous aviez la monnaie et que l'économie réelle n'est pas forte, qu'est-ce que vous allez faire? Supposons que pour une raison ou pour une autre, l'État doit, par exemple, satisfaire à certaines revendications salariales et autres. C'est pas compliqué, il fait fonctionner la planche à billets. Alors, est-ce que pour autant, l'accès au prix des biens de première nécessité sera au même niveau? Dans la plupart des cas, ça a conduit à l'inflation. Donc, il y aura ce problème. Je suis tout à fait contre la domination de la France, mais on est dans un processus où l'intégration est très avancée. Si chaque pays sort individuellement du franc CFA, de la zone franc, la Côte d'Ivoire sort, le Sénégal sort, etc. Comment ensuite on va reconstituer une monnaie unique face à un pays comme le Nigeria, par exemple?
Je préfère la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage, avait lancé Ahmed Sékou Touré, premier président de la Guinée. Son pays sera étouffé économiquement. Le président Modibo Keïta du Mali lui avait emboîté le pas, mais sera victime d'un coup d'État. Et le Mali reviendra dans la zone franc en 1984. La Mauritanie, depuis plus de 40 ans, à sa propre monnaie. Abdourahmane Gaïdé est historien mauritanien à l'université de Dakar.
En 1973, la Mauritanie, au moment de l'apparition des Lougias, je me rappelle très bien que ça a été une grosse fête. Il y avait du nationalisme, a été accompagné par une nationalisation de toutes les entreprises les plus importantes du pays. Mais chemin faisant, nos discussions tournaient autour de pourquoi la Mauritanie a choisi de dénommer sa monnaie Ougia en Hassania. Et pourquoi ne pas utiliser les langues des autres ethnies pour désigner la monnaie nationale? Ça réveille une forme de nationalisme, voire même au-delà de l'ethnicité. Et je crois aussi qu'il y a un phénomène que les économistes mettent en avant, c'est celui de notre indépendance par rapport à l'ancienne métropole. Et si nous voyons d'ailleurs la mutation du nom CFA, qui était en franc des colonies, avant de devenir le franc des francophones. Mais est-ce que la réalité qui lie la monnaie à la monnaie occidentale a muté ou pas? Est-ce que nous le faisons aussi pour un pur nationalisme ou est-ce qu'il y a des répercussions réelles sur la vie des populations? Et est-ce que ceux qui défendent aussi notre sortie du franc CFA ont pris le temps de réfléchir avec le peuple? Est-ce que les populations africaines sont prêtes à changer de monnaie? Parce que ça ne doit pas seulement être un débat d'élite.
Et le débat est encore loin d'être terminé. Depuis Dakar, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
L'Organisation internationale pour les migrations et l'UNICEF ont rendu public mardi un rapport qui repose sur les témoignages d'un peu plus de 22 000 migrants et réfugiés, dont 11 000 enfants et adolescents. Et selon l'OIM, trois quarts des enfants et des jeunes qui migrent pour rejoindre l'Europe par la Méditerranée font face à des cas d'abus et d'exploitation. Florence Kim, porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations, appelle à l'unité d'action.
La Méditerranée, encore une fois, n'est pas qu'européenne et n'est pas européenne seulement. Ce que l'on voit, cette urgence migratoire pour le moment en Méditerranée nous démontre bien une chose, c'est que nous devons agir tous ensemble pour pouvoir identifier et trouver une solution. Et notre priorité est, encore une fois, de pouvoir faire en sorte que ces enfants n'aient plus à risquer leur vie en traversant la Méditerranée.
Florence Kim, porte-parole de l'OIM. La Corée du Nord a promis aujourd'hui d'accélérer ses programmes militaires interdits en réponse aux sanctions maléfiques imposées par le Conseil de sécurité de l'ONU à la suite de son sixième essai nucléaire. Le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité lundi un huitième train de sanctions pour pousser Pyongyang à renoncer à ses programmes balistiques et nucléaires interdits. Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a décrit la résolution comme une provocation haineuse visant à priver la Corée du Nord de ses droits légitimes à l'autodéfense et à étouffer son État et sa population au moyen d'un blocus économique total. Jean-Roger Billon à ce micro, le prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.